Mais l'Eucharistie, la Sainte Cène, on mange le Christ ou on le mange pas en fait? Ça se passe comment? On en parle juste après cette vidéo? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur de l'Église réformée et j'ai un méga rhume des foins, mais je vais m'en sortir. On va parler aujourd'hui de l'Eucharistie ou de la Sainte Cène. Effectivement, peut-être tu l'as remarqué, c'est pas tout à fait toujours le même vocabulaire entre chrétiens pour parler de quoi? De ce moment où on partage le pain et le vin. Enfin, pain, pas toujours. C'est un petit peu ce dont on va discuter. D'abord, te rappeler juste que cette vidéo sur la Sainte Cène et l'Eucharistie, en fait, elle s'inscrit dans le récit de Jeudi Saint, ce moment qui se trouve dans le récit de la Passion de Jésus dans les Évangiles, où Jésus rassemble ses amis autour d'une table pour partager le seder juif, le repas de la Pâque. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis « mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi », eh bien, je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Donc aujourd'hui, je vais m'appuyer un petit peu plus sur, vraiment techniquement, ces différences. Donc d'abord, on parle d'Eucharistie. L'Eucharistie en grec, Eucharistos, c'est rendre grâce. Littéralement, c'est être reconnaissant. Donc on fait un rituel de reconnaissance, de mémoire. Et on se rappelle de quoi? Bah justement, de ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Et alors là aussi, on va voir quelques nuances. Dans l'Église catholique, par exemple, on va parler beaucoup plus du sacrifice, en fait, qu'a fait le Christ au moment de la Passion. Et donc, justement, le prêtre va refaire vivre, au fond, ce rituel du sacrifice par le biais des espèces. Et d'ailleurs, on va parler aussi presque d'une messe eucharistique. L'Eucharistie représente à la fois ce moment, ce rituel, mais peut aussi représenter la scène dans son intégralité. Alors que chez les protestants, par exemple, on va parler de Sainte Cène ou de communion, qui représente aussi évidemment ce moment du partage du pain et du vin, où on se fait mémoire de ce moment et on se fait mémoire de l'histoire de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais on va habiter un peu plus, de manière plus symbolique, ces deux moments. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, j'aurais envie de vous parler aussi de l'Église orthodoxe, parce que je crois que je me rapproche beaucoup plus finalement de leur signification. Donc, dans l'Église catholique, on se rappelle donc que Jésus inscrit son geste dans le rituel juif. Et donc le pain, vous savez, Jésus, donc, il dit « prenez ce pain et mangez-en tous, c'est mon corps ». Et donc ce pain devient véritablement, enfin c'est ce que dit Jésus, il dit « c'est mon corps ». Donc en fait, dans la messe, eh bien, le prêtre va pratiquer ce rituel et va, on pourrait dire, transformer par la prière, par le rituel, l'hostie va devenir le vrai corps du Christ. Donc oui, on va manger le Christ, pour le dire un petit peu comme ça. Pourquoi c'est une hostie justement? Parce que si on l'avait fait avec du pain, à partir du moment où le pain est transformé en corps du Christ, on ne peut pas jeter le corps du Christ à la poubelle, vous comprenez bien. Donc en fait, et aussi si le pain il faut le garder parce que pas tout le monde a pu communier, le pain il va un petit peu durcir, voire moisir, donc ce n'est pas possible. Donc assez vite, on a dû trouver en fait des manières de créer des hosties qui permettent justement d'être gardées par la suite, mais aussi d'ailleurs d'être contemplé, puisque vous le savez peut-être, il y a aussi ce moment du Saint, ce qu'on appelle le Saint Sacrement, où en fait on va mettre l'hostie dans un très beau... Alors excusez-moi les catholiques, parce que je ne connais pas tout le vocabulaire, mais donc dans un très bon agencement, et donc on peut aussi venir se recueillir devant le Saint Sacrement, c'est-à-dire la vraie présence du Christ par le biais de l'hostie. Alors personnellement, je suis très sensible en fait au sacrement catholique. D'ailleurs, sacrement, c'est dans toutes les traditions chrétiennes, c'est-à-dire c'est reconnu comme un sacrement. Sacrement veut dire sacramentum, qui est au fond le mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystérieux autour de ces rituels, parce que aussi c'est un sacrement parce que c'est le Christ qui l'a institué, c'est-à-dire c'est lui qui nous a donné au fond ces rituels. Il a dit lui-même: vous ferez ceci en mémoire de moi. Et puis sacrement aussi, vous entendez le mot sacré forcément derrière, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de rendre visible quelque chose qui se vit dans l'invisible de la foi, ou de rendre visible l'amour de Dieu qu'on va voir et qu'on va aussi goûter et dont on va s'alimenter dans notre vie par le biais de ce rituel. Donc c'est ça, tout ça qu'englobe l'Eucharistie. En ce qui me concerne, je suis protestante, donc vous l'avez compris, mon père est catholique en fait, catholique romain, et je suis très sensible à ce mystère aussi, à ce rituel dans l'Église catholique, je vous le cache pas. J'ai eu aussi l'occasion de vivre des choses assez exceptionnelles à Genève, où, qui est un haut lieu aussi de l'œcuménisme. Je me souviens d'avoir servi la scène, ce qui est complètement hérétique, certainement pour certains, avec un collègue prêtre qui s'appelait Jean-Daniel Ballet, qui nous a malheureusement quittés maintenant, mais nous étions à l'hôpital, alors c'est peut-être aussi le contexte qui faisait ça, mais on avait une telle fraternité entre nous et donc on a pu aussi vivre cela. Mais normalement, si on n'est pas catholique, on ne peut pas en fait communier à la table, sauf exception, ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique, c'est-à-dire dans certaines exceptions, par exemple lors de célébrations œcuméniques, eh bien les prêtres peuvent ouvrir l'accès à la communion à d'autres chrétiens. Mais normalement, ce n'est pas possible. J'ai malheureusement moi-même vécu plusieurs expériences où alors on va jamais me dire non, tu peux pas communier, mais on va vous faire comprendre que quand même, peut-être vis-à-vis des autres, de la communauté, surtout comme je suis pasteur, alors je suis visible, etc. Mais bon, moi, c'est un crève-cœur pour moi et je vous avoue que ça fait partie de ma prière que de viser cette communion vraiment eucharistique, parce que je pense au contraire que l'Église catholique et en fait l'Église orthodoxe aussi d'ailleurs, est très porteuse de quelque chose, c'est vrai, on peut le dire, de l'ordre de quelque chose d'un peu plus mystérieux. En même temps, il y a quelque chose aussi qui est un peu repoussant pour moi, et je dois aussi le dire en toute honnêteté, c'est tout ce qui tourne autour de la liturgie, aussi dans le contexte catholique, parce qu'il y a toujours cette condition de la repentance, de la confession des péchés. Vous savez, dans le rituel, on dit « je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Autrement dit, il y a quelque chose un peu de l'ordre, comme s'il fallait être pur ou vraiment un peu blanc, si je puis dire, pour pouvoir accéder à cette communion. Et ça m'interroge et ça m'interrogera toujours, parce que en même temps, le Christ, lorsqu'il a à table, alors vous allez me dire, évidemment, on me dira, oui, mais c'est parce qu'il n'y a que les disciples qui sont autour de cette table. Moi, je crois que les disciples, c'était les gens que Jésus aimait. On a vu qu'ils sont de nature très pécheresse, comme on l'est toutes et tous. Et donc, forcément, que toutes et tous, avec le Christ, sont invités à cette table. Normalement, il ne devrait pas y avoir de conditions. Mais ça n'engage que moi, c'est mon interprétation. En tous les cas, du coup, approchons-nous de la partie protestante. Parce que moi, je suis protestante, et donc dans les milieux luthériens, réformés, anglicans, en général, vous aurez cette hospitalité eucharistique de fait. Parce que il y a plusieurs interprétations au sein même, il y a plusieurs courants au sein même du protestantisme. C'est aussi un sacrement, mais alors vécu de manière un peu plus symbolique. C'est-à-dire que pour les catholiques, on va parler de transubstantiation. Et pour les protestants, par exemple luthériens, on va parler de consubstantiation. C'est-à-dire qu'on dit, oui, non, c'est vraiment quand même du pain, et c'est quand même vraiment du pain, ou du jus de raisin, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais on peut aussi communier bien sûr avec du jus de raisin aussi, notamment pour les personnes qui ont eu des problèmes avec l'alcool. Donc on peut communier de toute façon aujourd'hui avec les deux espèces comme ça. Donc les luthériens disent consubstantiation en disant, au fond, oui, la présence du Christ, elle est quand même, mais il y a aussi le pain, les deux substances cohabitent. Un petit peu comme finalement la nature du Christ qui est à la fois humaine et à la fois divine. Donc c'est un peu comme ça que s'en sortent les luthériens. Pour les calvinistes, on appelle ça une doctrine mémorialique, c'est-à-dire que en fait, c'est ce côté mémoire, c'est-à-dire qu'on se rappelle, on fait ce geste par mémoire, et qu'au fond, la présence du Christ, elle est plutôt d'ordre spirituel, c'est-à-dire que le pain et le vin, c'est du pain et du vin, mais ça symbolise au fond cette présence, et le Christ est présent par son esprit, en fait, par son souffle. Et puis, il y a encore Zwingli, pour qui, lui, c'est vraiment une représentation tout à fait symbolique. Le pain ne se transforme absolument pas. Donc on voit qu'il y a plusieurs nuances et plusieurs manières, mais en tout cas, sachez que si vous allez normalement dans une communauté protestante, en général, vous pourrez participer à la Sainte-Cène. Il y a même des communautés, et je ne le cache pas, c'est aussi le cas de la mienne, où qu'on soit baptisé ou pas d'ailleurs, n'est pas forcément une condition, on peut aussi amener les enfants, parce que pour moi, cette table représente la table du royaume, et j'y viens maintenant, c'est cette table où toutes et tous, nous sommes invités sans condition. À partir du moment où nous avons partagé un bout de l'enseignement du Christ, de sa parole. Nous avons déjà mangé quelque chose de sa présence et de son souffle, de son enseignement, de son amour. Et au fond, les espèces rendent visible par la matière, par le physique, quelque chose qui est déjà vécu dans le creux du cœur, dans l'intérieur du cœur. Et donc, on va partager aussi dans ce geste de fraternité et de sororité humaine que provoque aussi ce partage de la table. Et donc, j'ai oublié de le dire, mais donc chez les protestants, on peut avoir du vrai pain, parce qu'on peut du coup aussi le ramener forcément à la maison ou le partager un peu plus loin. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir aussi la différence dans l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe repose aussi sur une théologie qui, moi, me touche énormément, qui est cette théologie de la divinisation de l'humain ou de l'humanité ou l'humanisation de Dieu. Au fond, l'idée, c'est que Dieu s'est humanisé, donc s'est dépouillé de toute sa divinité pour devenir un humain à travers Jésus, pour que nous, les humains, nous puissions nous diviniser à travers le Christ en suivant en fait son enseignement, ses préceptes et son cheminement. Donc en fait, l'Eucharistie pour eux devient ce lieu en fait de divin échange, on pourrait dire, ou ils appellent ça aussi le sacrement de la joie, c'est-à-dire qu'en fait l'Eucharistie est un processus, c'est le processus des baptisés, c'est le processus de l'Église qui tend en fait vers cette divinisation et en même temps la rencontre du divin qui descend par le Christ vers l'humain. Et donc l'Eucharistie va symboliser en fait cette unité, ce processus de communion entre les deux. Et moi, ce qui me parle beaucoup, et ça peut parler à tout un chacun, c'est qu'en fait, ce processus de l'Eucharistie nous permet de vivre quelque chose de l'ordre du royaume qui est déjà là, mais encore à venir pleinement, c'est-à-dire ce lieu où la justice, la paix et l'amour règnent parfaitement. Mais ce sont des choses que je développe particulièrement dans le cercle privé, justement tout cet aspect de spiritualité, de vie intérieure. Et puis on se retrouve très bientôt et bien pour la suite de ce cheminement dans la voie de l'amour du Christ. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes passés et ceux à venir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des Ataprod qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com. Soyez bénis les amis.